Alors, je ne sais pas combien de fois je me suis fait poser la question suivante. Et peut-être que vous l'avez déjà posée ou quelqu'un vous l'a déjà posé cette question-là aussi. Que veut dire le blasphème contre le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Vous vous l'êtes fait poser? Oui, OK. Qui peut commettre le blasphème contre le Saint-Esprit? Ce qui est un peu la même question ou qui va avec. Est-ce que moi, j'aurais commis le blasphème contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'un chrétien peut commettre le blasphème contre le Saint-Esprit? Ai-je commis le péché impardonnable lorsque, par exemple, en colère, j'ai dit à Dieu des paroles méchantes ou j'ai pensé des paroles méchantes, des choses irrespectueuses à l'égard de Dieu? Est-ce que j'aurais commis ce péché-là? Et là, toutes sortes de choses qui viennent avec. Parfois aussi, il y en a qui peuvent se demander la question suivante, qui peut aller dans la même direction, mais ai-je été trop loin dans ma façon de vivre pour que Dieu puisse me pardonner à nouveau? Ou me pardonner de ce que j'ai fait, tenant compte de ce que j'ai fait? Est-ce possible de faire quelque chose pour lequel Dieu ne puisse nous pardonner? Ce matin, le titre du message, l'avez-vous remarqué dans le bulletin? C'est « Le péché impardonnable ». Donc, il existe un péché, selon Jésus, qui soit impardonnable. Alors, le texte d'aujourd'hui va justement nous aider à réfléchir à cette question importante. Est-ce possible d'aller trop loin et de se placer hors de la portée du pardon de Dieu? Dans le texte qu'on va lire ce matin, Jésus est accusé d'une chose horrible. Et la chose dans laquelle il est accusé, c'est celle-ci, de libérer des gens de la puissance des ténèbres, en utilisant la puissance des ténèbres. C'est ce qu'il est accusé. Donc, de faire des miracles et de chasser des démons, mais de le faire dans la puissance même des ténèbres, et donc, naturellement, de pécher contre Dieu, ou d'être sous l'influence démoniaque, de Belzébul, comme le texte nous le dit. Maintenant, la réplique que Jésus va faire face à ceux qui l'accusent révèle une triste réalité. Et cette triste réalité, c'est la suivante. Il est possible de faire des choix qui sont irréversibles et qui auront des conséquences éternelles. C'est possible. Il y a des gens qui font ou qui commettent le péché impardonnable en faisant ce choix qui est irréversible dans leur vie. Et donc, il n'y a pas de retour possible. C'est triste. Parce qu'il y a le dicton qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais Jésus dit ici dans le texte, et c'est mon désir de bien vous le présenter ce matin et de l'expliquer avec toute la grâce et la sensibilité que j'espère que le Seigneur va me donner pour pouvoir vous présenter ce texte. Mais dans le domaine spirituel, il est faux de dire « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Parce que Jésus dit « malheureusement, il y a des gens qui franchissent une ligne, et lorsqu'ils franchissent cette ligne, c'est un non-retour. Il n'y a plus de possibilité de pardon ». Alors, c'est important de savoir c'est quoi ça, hein? C'est quoi cette ligne qu'il ne faut pas franchir? Parce que si je la franchis, peu importe qui je suis, Jésus dit, je vais trop loin. Et il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons devant toi encore te demander ton assistance et ton aide. Parce que Seigneur, on sait très bien que par nous-mêmes, par notre propre intelligence, on ne peut pas comprendre les Écritures. On ne peut pas comprendre le sens exact pour lequel elle a été écrite. Et Seigneur, cette histoire qu'on va avoir ce matin, cet enseignement que tu as donné, Seigneur, on a besoin de ton esprit pour que tu puisses éclairer chacun et nous aider à comprendre non seulement les paroles, mais le sens de ces paroles. Et que, Seigneur, notre cœur puisse être averti, que notre cœur puisse être édifié et que notre cœur même puisse être solidifié de manière à ce que nous puissions justement aller dans la direction que toi tu veux qu'on aille, que toi tu aimerais qu'on aille, et non pas dans cette direction que certains malheureusement ont choisi de faire et d'aller. Ô Seigneur, donne-nous ton intelligence, ta sagesse, et que nous puissions, Seigneur, aussi être encouragés à travers tout cela. Oui, avertis dans un sens, mais aussi encouragés, édifiés par les paroles qu'on va regarder ce matin. Que ton esprit nous accompagne et que toi, tu puisses œuvrer dans nos cœurs comme bon te semble. En ton nom, Jésus, qu'on te prie pour ta gloire. Amen. Alors, le texte de ce matin, c'est Marc, l'évangile de Marc. On continue sur le chapitre 3 qu'on a entrepris la semaine passée. Alors, Marc, chapitre 3, et là, ici, c'est les versets 22 à 35. Alors, ceux qui veulent suivre dans leur Bible, Marc 3, 22 à 35. Alors, on lit ceci. Au verset 22, « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Belzébul est en lui, en parlant de Jésus. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. » Verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il va piller sa maison. En vérité, je vous le dis, et à chaque fois que cette expression est là, ça veut dire ici, là, ce que je suis en train de vous dire, portez attention. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire est crucial. Il n'y a rien de plus important que ceci. Tous les péchés, sans exception, seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que tous les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et on sait que c'est pas compliqué de faire ni un ni l'autre. Les péchés, c'est facile d'en faire, puis les blasphèmes, c'est facile d'en proférer. Mais il y a une exception. Donc, à tous les péchés qu'il vient de dire, et à tous les blasphèmes qu'il vient de dire Jésus, il rajoute ceci, il y a une exception. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Si Jésus a précisé un blasphème? Ah, moi, si je vais préciser, c'est quoi un blasphème? OK. Je vais le faire juste pour toi. Okay. Verset 30. C'était parce qu'il disait, un esprit est impur en lui. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. C'est la deuxième fois qu'ils apparaissent dans l'histoire, au chapitre 3. C'est la deuxième fois que ses parents viennent à son secours, à Jésus, en disant, la première fois, il est hors de sens, il faut le sortir de là. Et ici, il le cherche parce qu'il veut lui parler. Là, c'est comme ils disent, wow, ça brasse, Jésus, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit des choses incroyables, ou il est en train de faire des choses. Et là, ils veulent venir à son secours. Et là, Jésus répond, qui est ma mère et qui sont mes frères? puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. On dirait que Jésus aime ça, hein? Regarder les gens. Hein? Il aime savoir qui est devant lui. Ça aussi, c'est la deuxième fois que c'est mentionné ici. Une fois, c'était concernant les pharisiens, et là, ici, c'est tous ceux qui étaient là. Il les a regardés, il a promené ses regards, et il a eu un contact avec tous ceux qui étaient là. Et là, il a dit ceci, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, si on fait la volonté de Dieu, on est qui? On est sa famille. C'est ce que Jésus est en train de dire. Hein? On est sa famille. La famille à Jésus, c'est tous ceux qui font la volonté de son Père. C'est lié comme ça ensemble. C'est aussi simple que ça. Jésus établit ce principe-là. Alors, avant d'expliquer c'est quoi un blasphème, à la demande générale, j'aimerais donner un petit peu de détails aussi sur tous ces leaders religieux qui sont présents dans le portrait. Alors, il y a les pharisiens qu'on voit au verset 6, chapitre 3, la semaine passée, et on les a vus apparaître aussi la première fois au chapitre 2. À trois reprises, ils sont mentionnés au verset 16, 18 et 24 du chapitre 2. Alors, c'est qui ça, les pharisiens? C'est important ici, en fonction justement de comprendre c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, les pharisiens, c'est un parti religieux juif qui était extrêmement légaliste. Alors, ils étaient des intégristes. Ils étaient réputés pour être attachés d'une manière rigide au moindre détail de la loi cérémonielle et rituelle. Alors, eux autres, c'était des gardiens de la loi. Et comme Jésus mentionne, ils ont souvent rajouté plein de choses, de manière à être gardien. C'est comme, à un moment donné, ils ont mis une clôture, puis à un moment donné, on dit, une clôture, c'est passé, on va mettre aussi des barbelés, puis on dit, des barbelés, c'est passé, puis on va mettre aussi des lumières, c'est passé, on va créer des fossés, l'autre bord des barrières et des barbelés et des lumières, et l'autre bord des fossés, on dit, c'est passé, on va mettre des crocodiles avec de l'eau dans les fossés, puis on dit, c'est passé, puis là, ils ont rajouté comme ça, puis ils ont rajouté comme ça, puis ils ont rajouté comme ça, dans le but de protéger la loi. On pourrait dire leur motif était bon, mais leur façon de faire était ignoble parce que, en faisant tout cela, naturellement, ils écrasaient les gens. Ils mettaient des fardeaux énormément pesants, puis c'était illogique bien souvent. Ça faisait pas de bon, gros bon sens. Tellement qu'en faisant des choses, ils, par contre, contribuaient à faire pire. Et c'est ce que Jésus a essayé de démontrer avec, justement, le sabbat. Alors, c'est pour ça que Jésus est si féroce envers eux à cause des dommages qu'ils sont en train de causer parmi le peuple. Leur nom, pharisien, veut dire simplement séparé. Alors, ils étaient des séparatistes. Mais oui. Ils étaient séparés. Alors, ils étaient des séparatistes. Et dans ce sens-là, c'est vrai, ils votaient tout le temps dans le sens de garder la loi, et tout ce qui était en dehors de la loi, ben ils condamnaient ça, puis ils voulaient pas, mais comme je disais tantôt, malheureusement, leur tradition était rendue plus importante que la loi et étouffait la loi. Alors, ils étaient des séparatistes religieux ou encore des intégristes fanatiques, du même titre que présentement certains musulmans qui, au nom de garder l'islam, font des gestes épouvantables et répréhensibles et que même beaucoup de musulmans condamnent parce que ils vont trop loin dans leur désir de garder absolument. Donc là, personne d'autre peut avoir rien d'autre qui diverge. Il faut les tuer et les éliminer. Seulement l'islam doit... Alors eux, ils étaient des séparatistes et des fanatiques dans ce sens-là. Ils voulaient préserver leur tradition. Ce qu'on sait aussi des pharisiens, c'est qu'ils haïssaient les Romains. Alors, les Romains, à cette époque-là, ils étaient des envahisseurs, puis ils les haïssaient. Ils n'aimaient pas non plus les Hérodiens. Et je vais vous expliquer tantôt c'est qui les Hérodiens. Et plusieurs d'entre eux, parmi les pharisiens, étaient des scribes. Et qui sont les scribes? On les voit apparaître au chapitre 3, verset 22 ici. Et avant, on les avait vus au chapitre 1, verset 22, et au chapitre 2, verset 6, ils sont mentionnés, les scribes. Donc, les scribes, c'est aussi des pharisiens. Ce qu'il y a de particulier avec eux, c'est que eux étaient les spécialistes de la loi. Donc, un scribe avait eu une formation poussée de manière à ce qu'il soit considéré comme étant un expert de la loi. Donc, la loi, lui, il connaissait les moindres choses en ce qui concernait la loi. Donc, lorsqu'il y avait une question qui était à débattre, alors qui est-ce qu'on allait voir? Les scribes, parce que c'était les experts dans la loi. Eux devaient être capables de nous expliquer les questions qui touchaient justement à la loi. Et d'ailleurs, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu que le Messie était né, le roi était né, disait des Juifs? Il a consulté qui? Il a consulté les scribes pour savoir où est-ce qu'il doit naître ce roi-là, puis ainsi de suite, c'est quoi les détails que la loi dit concernant la venue du Messie. Et donc, c'était normal d'aller consulter ces personnes-là. Ils étaient considérés comme des professionnels spécialisés dans l'interprétation de la loi et son application à la vie quotidienne. Les Hérodiens maintenant. Alors ici, on les voit, ils apparaissent là. Il y a comme une alliance qui va se faire entre les scribes et les Hérodiens face à Jésus. C'est qui les Hérodiens? Eh bien, les Hérodiens, leur particularité à eux, c'est que c'était un parti politique juif qui se voulait être beaucoup plus séculier que celui des pharisiens. Alors, naturellement, leur nom le dit, Hérodien veut dire d'Hérode, dans le sens qu'il soutenait le régime romain en Terre Sainte. Alors, eux étaient favorables à la présence des Romains, c'est pour ça qu'ils étaient des Hérodiens. Ce parti-là, politique juif, était dominé par les Sadducéens, qui était un autre groupe parmi les leaders religieux. Alors, eux, les Hérodiens, s'opposaient normalement, ils n'aimaient pas les pharisiens, les scribes, sur tous les sujets. Ils ne s'entendaient pas entre eux. Ils étaient toujours prêts à se battre l'un et l'autre. Pourtant, ici, dans le texte, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'ils trouvent un but commun. Et ce but commun-là, c'est « il faut se défaire de Jésus ». Et là, ils font une alliance ensemble. Malgré le fait qu'ils se haïssent normalement dans le quotidien et qu'ils s'opposent sur tous les sujets dans le sens qu'ils ne partagent pas du tout, les pharisiens et scribes haïssent les Romains, tandis que les Hérodiens prennent part pour les Romains. Alors, vous voyez un peu comment un est un parti religieux, l'autre est un parti séculier. Alors, et la raison pour laquelle, naturellement, ils se lient ensemble, c'est parce que là, ils s'aperçoivent que seuls, ils ne pourront pas faire face à Jésus. Sa popularité est croissante et il devient de plus en plus incontournable. Et là, il faut qu'ils fassent front commun, mettent leurs efforts ensemble pour contrecarrer Jésus. Maintenant, les Sadducéens, eux autres, on les voit qu'ils vont apparaître un peu plus loin au chapitre 12, verset 18 de l'Évangile de Marc. Mais ils font partie aussi de ces religieux. Ils étaient présents, d'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste faisait ses baptêmes et que Jésus est venu, ils étaient là présents au moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 7. Donc, les Sadducéens, contrairement aux pharisiens, sont eux aussi un parti religieux juif, mais ils font partie de la classe des sacrificateurs, de la tribu des sacrificateurs. Donc, ils sont des gens qui sont aisés financièrement. Ils font partie de l'aristocratie lévitique, donc la tribu qui a donné tous les sacrificateurs, qui, du temps du roi Hérode, dirigeait le temple. Alors, c'est les Sadducéens qui avaient le contrôle du temple, parce que les sacrificateurs, naturellement, étaient appelés à gérer le temple et eux étaient sadducéens de ce parti-là. Ce qui est particulier un peu, c'est qu'ils rejetaient le surnaturel. On voit ça dans les Écritures. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ni aux anges. Eux, c'était restreint aux cinq livres de la loi, le Pentateuque. Alors, pour eux, les cinq livres de la loi faisaient matière importante et le reste était moins important. Et ils avaient ces particularités-là de rejeter le surnaturel. Aussi, une autre particularité qui les distingue des pharisiens, c'est qu'ils faisaient aucun cas de la tradition. Alors, toutes les choses que les pharisiens, eux autres, essayaient de respecter, eux autres, ils n'en faisaient pas cas. Ils détestaient le légalisme que les pharisiens et les scribes manifestaient. Ils étaient plutôt des rationalistes libéraux, enclins au compromis. Eux autres, ils aimaient faire des compromis et cherchaient à saisir les opportunités politiques qui se présentaient à eux. Donc, leur motif à eux, dans le fond, était un peu comme les Hérodiens, était plus politique. Alors, encore là, ici, ils n'avaient pas tellement grand-chose en commun avec les pharisiens et scribes, mais pourtant, ils vont encore là, eux aussi, se lier avec les pharisiens et scribes dans un but commun contre Jésus. Maintenant, dans le texte aussi, il est mentionné Belzébul. Alors que Jésus fait ses miracles par Belzébul. Alors, qui est Belzébul? D'où ça vient? Ce terme désigne à l'origine Baal-Zébul, qui était dans l'Ancien Testament, le faux dieu de la ville des Philistins à Écron, qui veut dire Baal le prince ou encore Seigneur exalté. Alors, le Nouveau Testament conserve ce nom sous la forme de, ici, Béelzébul, et l'emploie pour désigner très clairement dans le texte, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Satan, c'est le prince des démons. Alors, on n'a pas à se questionner longtemps là-dessus, c'est très clair ici, c'est lui qui est le prince des démons. Alors, Satan et les démons sont tous des êtres déchus qui se sont rebellés contre Dieu avant même la création de l'homme et de la femme. Leur but est de voler, tuer et détruire, Jean 10:10. Alors, c'est pour ça ici que c'est grave que Jésus soit accusé de faire ce qu'il fait, ses œuvres, dans la puissance de Belzébul, parce qu'il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi du peuple de Dieu, et il est l'ennemi, on pourrait dire, de l'humanité entière, parce que son seul désir, c'est de voler, tuer et détruire. Lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est toujours de contrer l'œuvre de Dieu et d'aller dans la direction opposée. Maintenant, qu'est-ce qu'un blasphème? Et ensuite, je vais parler du blasphème du Saint-Esprit plus particulièrement. Mais un blasphème, au sens général, c'est tout simplement de parler contre quelqu'un, de dire du mal, et là, le terme vient calomnier quelqu'un. Alors, dire du mal ou encore des faussetés. Qui là vient le terme de médisance. Tenir des propos irrespectueux, attaquer la réputation de quelqu'un ou son caractère, proférer des injures ou des insultes dans le but d'attaquer la dignité et l'intégrité de quelqu'un. Ça, c'est un blasphème. On peut blasphémer contre une personne, dans le sens qu'on peut le calomnier et on peut aussi médire. Attaquer sa personnalité, attaquer son intégrité, son caractère, en disant des choses à son égard, naturellement, qui vont emmener les gens à le juger et le condamner. Maintenant, au sens religieux, un blasphème, c'est une attaque contre l'honneur et le caractère de Dieu. Le caractère et l'honneur du Fils de Dieu. Et le caractère et l'honneur du Saint-Esprit. De Dieu. Alors ici, ce qu'on peut faire envers un homme, on peut le faire aussi envers la personne de Dieu le Père, envers la personne de Dieu le Fils et envers la personne du Saint-Esprit. Même Marc 2:7, on voit que le blasphème est faussement attribué à Jésus pour avoir pardonné les péchés du paralytique en disant « Tu blasphèmes ». Ils ont dit à Jésus « Tu blasphèmes ». Ça, c'était les leaders religieux. Tu blasphèmes parce que aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, c'est un blasphème. Et dans Actes 6:11, on voit que ça a été attribué à Étienne pour avoir rendu témoignage avec puissance que Jésus était le Messie. Il disait à Étienne, tu blasphèmes. Tu blasphèmes parce que tu parles de Jésus comme étant le Messie. Donc, tu attaques Dieu. Tu attaques la réputation de Dieu. L'intégrité de Dieu en disant que Jésus est le Messie. Naturellement, c'est encore là faussement attribué à Étienne parce qu'il disait la vérité. Jésus ici dans le texte dit explicitement ceci. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Ça inclut contre les hommes, contre Dieu et même contre lui en tant que fils. De l'homme, en tant que fils de Dieu. Il dit, tout blasphème qui va être adressé contre moi, contre Dieu, peut être pardonné. Et contre les hommes, ben, encore plus facile, disons, en parlant d'une manière humaine. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Pourquoi est-ce qu'un blasphème contre Dieu est pardonnable? Pourquoi est-ce qu'un blasphème contre le Fils de Dieu est pardonnable, mais qu'un blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable? C'est une bonne question, hein? Là, c'est Jésus qui le dit, là. Tout péché, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, et là, il dit même la personne qui parle contre le Fils de l'homme, ce péché-là va être pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, qui blasphème contre le Saint-Esprit, lui, il n'y aura pas de pardon. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu es en train de parler, Jésus? Comment ça que Dieu le Père, si je fais un blasphème contre lui, ça peut être pardonné? Si je fais un blasphème contre toi, le Fils, ça peut être pardonné, mais si je blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas pardonnable, parce que le Saint-Esprit est plus important que Dieu le Fils et Dieu le Père. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'il y ait une réponse ici, là, hein? Alors, revenez la semaine prochaine, puis... Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le blasphème contre le Saint-Esprit? Il y a quelque chose ici d'important. C'est ce que Jésus est en train de dire. Le blasphème contre le Saint-Esprit, il s'agit de ceci. C'est un rejet délibéré, volontaire et affirmé, réfléchi, de la part des pharisiens et scribes, ce qui est vraiment le contexte ici, c'est eux qui viennent accuser Jésus de faire que son ministère est dirigé ou fait dans la puissance des ténèbres. Le problème ici, c'est qui sont les pharisiens, les scribes? Eh bien, je l'ai dit tantôt, ce sont les experts de la loi. Ce sont les tidjo connaissants des Écritures. Ils n'ont pas écrit un livre, eux autres, pour les nuls. Eux autres, c'est des experts. Ils écriraient un livre pour des experts. Leur donner toute leur science. Eux, c'est des spécialistes. Tu ne peux pas aller plus haut que eux en termes humains, là, pour aller voir qui dit quoi dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire tel texte. Ils étaient l'autorité finale. Ils étaient la cour suprême d'Israël, si je peux employer l'expression comme ça. Comprenez? Jésus le sait, ça. Mais eux, là, ils ont examiné les Écritures. Hérode aura même demandé d'où doit venir le Messie. Et ensuite, ils sont allés entendre Jean-Baptiste. Ils ont été témoins, ils ont été là, ils ont entendu, ils ont examiné. Ils sont allés constamment aux Écritures. Ensuite, ils ont eu Jésus lui-même en personne. Ils l'ont entendu enseigner. Ils l'ont vu en train de performer les miracles, de guérir des malades, de chasser des démons, de plein de personnes. Il y avait toute une foule qui venait, qui nous dit Marc, tellement qu'à un point, il n'y avait même plus de place. Même à un moment donné, Jésus n'était même plus capable d'aller dans une ville parce qu'il n'y avait pas assez de place pour l'accueillir. C'était la cohue totale. Donc, les pharisiens ont fait leur devoir. Ils ont examiné les Écritures. Ils ont sondé la parole de Dieu. Ils ont réfléchi, ils ont débattu entre eux ces questions-là. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Jésus, tu n'es pas le Messie. Nous rejetons ton ministère. Oui, nous reconnaissons que tu fais les miracles que tu fais. On peut pas le contester, ça. Là, on serait vraiment imbécile si on essaierait de contester ça. Oui, on voit que tu chasses les démons et qu'il y a une puissance incroyable qui se manifeste à travers toi. Mais, on a trouvé ton problème. C'est que ton problème, c'est que tu fais ce que tu fais dans la puissance de Belzébul, le prince des démons. Comprenez-vous ici ce que Jésus est en train de dire? Ils ont traversé une ligne, et Jésus le sait. Vous savez, on a dans la parole de Dieu un pharisien qui se convertit. Il s'appelle? Hein? Ah ben, hey, un deuxième pharisien qui s'est converti. Oui, il y a Nicodème, c'est vrai que, selon toute vraisemblance, en tout cas selon la manière qu'on peut comprendre les textes, il serait venu à la fois plus tard, après la résurrection de Jésus, tout ça, et c'est fort possible qu'il soit venu à la conversion. Mais un qui est assez spectaculaire et incontournable, c'est Saul de Tarse. Il était un pharisien. Comment ça que Saul de Tarse s'est converti? Hein? Oui. Et quand Dieu est allé chercher, Saul, dans son témoignage, dit ceci: ce que je le faisais par ignorance. Voyez la différence? Le péché impardonnable, c'est la personne qui, après avoir examiné, avoir connu la vérité, avoir sondé les Écritures, avoir pesé la question, avoir regardé Jésus en face, dans les yeux, avoir considéré qui il est, son ministère, sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il dit être, et en toute connaissance de cause, dire « j'en veux pas ». C'est un imposteur. C'est de la foutaise. Je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de Jésus. N'importe qui arrive à cette conclusion-là franchit la ligne et il n'y a pas de retour possible. Voyez la différence? La différence, c'est d'agir d'une façon délibérée, volontaire et tout à fait réfléchie, en ayant considéré toute la question, en ayant eu toute l'information que j'ai besoin, en ayant eu la connaissance que j'avais besoin pour prendre une décision, puis d'arriver à cette conclusion-là, de dire non, je ne veux rien savoir de Jésus. Et là, il est, peu importe, mais il n'est pas le Messie, ou moi je ne veux rien savoir de lui dans ma vie. Normalement, les pharisiens, les scribes, après avoir examiné la preuve qu'ils avaient devant lui, les textes bibliques, le ministère de Jésus, ils auraient dû arriver à la conclusion que Jésus est le Messie, parce que ses œuvres manifestent son authenticité, qu'il est le Messie promis. Jésus le dit. Il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres que je fais. Mes œuvres attestent d'une façon indéniable que si vous les examinez soigneusement, à la loupe, en les pesant, vous allez arriver à une seule conclusion. Si vous êtes honnête et si votre cœur désire connaître la vérité, vous allez arriver à la conclusion que je viens de Dieu et que les œuvres que je les fais dans la puissance de Dieu et que je suis le Messie promis. Pourquoi est-ce un péché pardonnable de parler en mal de Jésus, mais un péché impardonnable de parler en mal du Saint-Esprit? Une personne pourrait rejeter Jésus ou parler en mal contre lui par ignorance seulement, sans ne l'avoir jamais rencontré ou sans avoir connu sa puissance ou avoir pris sa décision en toute connaissance de cause. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous avez déjà reçu Jésus. Moi, la première fois que quelqu'un m'a parlé de Jésus, je dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir de Jésus. Même après m'être converti puis avoir accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai mis Jésus de côté. Est-ce que je l'ai rejeté? Oui. Je l'ai rejeté. Pas d'une façon absolue, mais je me rappelle comme si c'était hier. Cette décision-là, à un moment donné, je suis arrivé, je dis, je suis jeune, 19 ans, puis là, mes chums, ils trouvent que je suis un peu, voyons donc la Bible, puis voyons donc, là, là, je suis allé dans l'église, puis l'église, je suis pas sûr si c'est ma place. Pas mal de personnes âgées dans l'église. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'aime beaucoup les personnes âgées. Mais j'avais de la misère à m'intégrer à l'église. Et puis, là, un moment donné, j'ai dit, ouais. Là, j'ai dit, Seigneur, moi, on va faire quelque chose, toi puis moi. Je vais vivre ma vie de jeunesse. M'en profiter. Puis, quand je serai mûr, je vais revenir. Mais là, je me rappelle très bien, j'ai mis ma Bible de côté, j'ai mis Dieu de côté, j'ai arrêté d'aller à l'église, puis là, je suis allé dans ma vie, découvrir la vraie vie, le bonheur, la joie totale. Ouais. Mais j'ai vraiment rejeté Jésus. Maintenant, est-ce que j'avais commis le péché impardonnable? Évidemment non. Évidemment non, je suis ici ce matin. Vous êtes content que je suis ici ce matin? Moi aussi. Moi aussi. J'aurais pu. Ça aurait pu être ma décision. Et il y en a que c'est ça, hein? La semaine prochaine, ça va être la parabole du semeur. Et vous allez voir, c'est possible d'embrasser puis finalement de mettre de côté complètement, montrant que je ne suis pas sauvé, que j'ai jamais eu cette conversion de cœur. C'est possible d'avoir l'extérieur d'un disciple et de ne pas avoir l'intérieur. C'est possible. Et ça aurait pu être possible que j'adhère jusqu'à un certain point au message de Jésus, puis après considération et autres, que finalement je dise non, moi je veux rien savoir de Jésus. C'est possible aussi. Mais heureusement, ce n'a pas été mon cas. Alors donc, c'est possible de rejeter Jésus ou de parler en mal contre lui, mais par ignorance. C'est vraiment possible. Et Saul de Tarse est un exemple. Il a persécuté des chrétiens. Il a tué des chrétiens. Il n'y a quand même pas. C'est pour ça qu'il dit, je suis le premier des pécheurs. C'est horrible ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait pensant que c'était correct. Je pensais vraiment que cette secte-là qu'il appelle chrétienne, là, c'était faux, c'était contre Dieu, c'était un blasphème contre Dieu. Alors moi, j'ai lutté de toutes mes forces contre cette gang-là, pensant bien faire. Et là, Dieu savait que dans le fond, ce qui animait Saul de Tarse, c'était l'ignorance. Et quand Jésus s'est manifesté sur le chemin de Damas, Damas, Paul s'est converti à ce moment-là. Tout comme moi, je suis revenu à Jésus quand il s'est gracieusement représenté à moi, une fois que j'étais dans la merde. Hein? Le Seigneur était gracieux envers moi. Et c'est drôle, hein, le premier verset que Jésus m'a donné quand je suis revenu à lui, parce que je me posais des questions, imaginez-vous. Pourquoi, Seigneur, t'as permis? Pourquoi t'as permis que ça m'arrive, ces affaires-là? Pourquoi? Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'était Jean 15:5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Maintenant, quel lien y a-t-il entre ceux qui commettent le blasphème du Saint-Esprit, qu'on voit ici dans Marc 3:29, le péché qui mène à la mort, dans 1 Jean 5, 16-17? Quel est le lien? Quel est le lien entre le blasphème du Saint-Esprit, le péché qui mène à la mort, et ceux qui sont tombés après avoir été éclairés dans Hébreux 6, 4 à 8? Ou encore, quel est le lien entre ceux qui commettent le blasphème du Saint-Esprit, le péché qui mène à la mort, ceux qui sont tombés après avoir été éclairés, et ceux qui pêchent volontairement après avoir connu la vérité dans Hébreux 10, 26 à 31? Et ça finit pas là. Quel est le lien entre ceux qui commettent le blasphème du Saint-Esprit, le péché qui mène à la mort, ceux qui sont tombés après avoir été éclairés, ceux qui pêchent volontairement après avoir connu la vérité, et ceux qui sont retournés aux souillures du monde dans 2 Pierre 2, 18 à 22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Quel est le lien entre tous ces textes-là? Savez-vous c'est quoi le lien? Revenez la semaine prochaine. Non. Je vais vous le donner. En fait, ils commettent le même péché. Tous ici font un choix délibéré, volontaire et en toute connaissance de cause de rejeter l'œuvre et la personne du Saint-Esprit en niant ou en attaquant la seigneurie de Jésus-Christ et sa qualité de rédempteur. C'est le problème de chacune de ces personnes-là. Dans le cas d'un Jean, même Jean dit, ils étaient avec nous, ils étaient du milieu de nous, mais ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont commis le péché qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que ils ont regardé Jésus, ils ont examiné l'enseignement qu'on a donné, que les apôtres ont donné par rapport à Jésus, et sont venus à la conclusion que non, ça c'est pas Jésus. Jésus, voici qui il est. Et là, ils ont inventé une fausse doctrine qui attaquait la personne de Jésus-Christ. Et Jean dit, ils ont commis un péché qui mène à la mort parce qu'ils ont fait un choix délibéré, en toute connaissance de cause, réfléchi, et se sont éloignés du Jésus du Nouveau Testament. Dans Hébreux 6, ceux qui sont tombés après avoir été éclairés, comme dans Hébreux 10, ceux qui commettent un péché volontairement après avoir connu la vérité. Alors ici, c'est les personnes qui sont retournées au temple, qui ont dit, oui, on a regardé Jésus, oui, on a examiné son œuvre et tout ça, mais c'est pas suffisant ce qu'il a fait. Il faut qu'on retourne au temple, aux anciennes affaires. C'est un peu comme si quelqu'un disait, moi, je retourne à ma religion qui est basée sur des œuvres et on est sauvé par les œuvres. Puis si je fais partie de cette religion-là et que je fais les œuvres que j'ai à faire, là, je vais être sauvé. Alors, j'ai Jésus, puis en plus, j'ai le temple, dans le cas des Juifs, et tout le système sacrificiel, et toutes les choses requises par la loi, et ainsi de suite. Et là, la circoncision, puis toutes les autres affaires qui étaient, dans le fond, inutiles, et ça prend les deux. Et là, ça marche pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe qui est pas correct ici. Parce que là, ça fonctionne pas ensemble. Vous voyez? Ils font le même choix délibéré, en toute connaissance de cause, de rejeter Jésus. Seul Jésus est capable de nous apporter le pardon des péchés et le salut. Et ils le font. Dans 2 Pierre, ceux qui sont retournés au seuil du monde, c'est les faux docteurs dont Pierre est en train de reprendre. Alors encore là, ici, c'est des gens qui, après avoir examiné la vérité, examiné qui est Jésus, arrivent finalement à des conclusions qui sont complètement contraires à l'Évangile. Et là, ils essaient d'emmener les autres dans leur direction, puis ils disent, c'est impossible. Ils sont retournés comme le chien qui avait vomi et retourné à ce qu'il avait vomi. Il retourne à ses fausses doctrines. Et là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et à chaque fois que ce choix qui est fait, après avoir examiné la vérité, la preuve, et j'arrive finalement à cette conclusion que Jésus n'est pas suffisant, que je n'ai pas besoin dans ma vie, que je le rejette par-dessus bord, je ne crois plus en lui, je ne crois pas qu'il existe, je ne crois pas qu'il est vrai, je ne crois pas qu'il est le sauveur, je ne crois pas que Jésus sauve. Alors, à ce moment-là, c'est clair et net dans la parole de Dieu. Si j'arrive à cette conclusion-là, c'est parce que je franchis une ligne. Et si cette décision-là, elle est arrêtée dans mon cœur, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est le péché que Jésus appelle éternel, qui est impardonnable. Maintenant, il y a deux extrêmes à éviter. Ça, c'est, je pense, ici, important qu'on parte ce matin avec ces deux réalités-là en tête, parce que sinon, on peut commettre d'énormes erreurs. La première extrême à éviter, c'est ceci. Penser que tous ceux qui ont fait profession de foi, qui ont fait la prière de repentance, qui ont rendu témoignage à la vérité d'une manière ou d'une autre, qui ont fait des œuvres même puissantes dans le nom de Jésus, qui ont annoncé le salut gratuit par la foi en Jésus, qui ont cru à la bonne nouvelle, qui ont même été baptisés par immersion, qui ont fait partie d'une église locale, qui ont servi Dieu en toute sincérité de cœur, sont nécessairement sauvés. Ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça que parfois on voit partir des personnes qui sont dans cette catégorie-là, qui pendant un certain temps ont pu suivre et de l'extérieur semblaient refléter une foi sincère en Jésus. Puis finalement, ils dévient, puis ils deviennent des personnes qui nient complètement la foi ou... Alors, de penser que peu importe les circonstances, peu importe la façon que quelqu'un vit, une fois que j'ai fait la prière de repentance, j'ai été sauvé et je suis sauvé pour la vie. C'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que c'est la circoncision de cœur qui fait la différence. C'est la nouvelle naissance. Donc, c'est pas ce que je fais ou même ce que je pourrais dire en ayant une bonne confession de foi, comme vous, j'ai déjà souligné que les démons ont une très belle confession de foi sur Jésus. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il est le Christ. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Ils savent qu'il est le Saint. Et ils connaissent Jésus, là. Hein? Mais là où ils ne le connaissent pas, c'est naturellement, ils n'ont jamais cédé leur vie, leur cœur à Jésus. Ils n'ont jamais voulu suivre Dieu et Jésus et son ministère. Et c'est pour ça qu'ils sont des démons. Alors donc, il faut faire attention de ne pas arriver à cette conclusion-là. C'est automatique. Quelqu'un est sauvé. C'est sûr. C'est sûr, c'est garanti à 100%. Là, ça serait une erreur. Parce que Dieu seul connaît le cœur de quelqu'un. Dieu seul connaît la profession de foi de quelqu'un. Dieu seul connaît celui qui a été baptisé. Et est-ce qu'il a une relation vraie et sincère avec Jésus? Lui seul le connaît. C'est sûr qu'il y a des fruits, et les fruits parlent. Mais parfois, il y a l'absence de fruits. Et là, on pourrait arriver à l'autre danger, qui est celui-ci. Pensez que tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qui sont tombés dans le péché, qui se sont égarés loin de la vérité, qui ont quitté la foi, qui ont délaissé le Seigneur, qui l'ont renié d'une façon ou d'une autre, qui ont vécu une vie chrétienne caractérisée par la tiédeur, qui sont demeurés sous l'esclavage du péché ou qui se sont rebellés contre Dieu, vont nécessairement être perdus. Ils n'étaient pas sauvés. Ou pour certains, ils diraient, ils ont perdu leur salut. Parce que, garde, ils suivent plus. Ils ont tombé. Ben, moi, j'aurais pas été sauvé. Puis certains d'entre vous, vous seriez ici pour dire la même chose. Moi, je me suis éloigné du Seigneur. Pendant un certain nombre d'années, mon cœur était froid. J'ai retourné dans des choses du monde. On a entendu des témoignages de personnes qui sont revenues au Seigneur après un certain nombre d'années. Et qui vivaient des vies loin d'être caractérisées par le fruit de l'esprit ou par la pureté, comprenez? Donc, c'est aussi possible de s'éloigner du Seigneur puis d'être vraiment sauvé. C'est-tu confondant, ça? Hein? C'est possible d'être dans l'Église puis de ne pas être sauvé. C'est possible d'être en dehors de l'Église puis d'être sauvé. Ben voyons donc, là, c'est quoi cette affaire-là? T'sais, ça donne quoi de venir à l'Église? Ben, le point, c'est celui-ci. C'est est-ce que je connais Jésus comme mon sauveur personnel? Et ça, vous le savez ce matin. Vous le savez si votre cœur attaché au Seigneur. Hein? Mais vous le savez aussi si vous avez de la misère dans votre vie chrétienne. La différence entre un pharisien, c'est que lui, son cœur était dur. Même Jésus était en colère en voyant l'endurcissement de leur cœur. Mais moi, ce que je vois avec des gens qui ont vraiment des difficultés dans leur vie chrétienne, c'est qu'ils sont loin d'avoir un cœur endurci. Ils ne sont pas contents de leur vie chrétienne. Mais ils savent juste des fois pas comment s'en sortir. Comment avoir la victoire sur certains péchés dans leur vie. Vous voyez, c'est toute une autre différence, là. C'est pas ici d'avoir une pensée mauvaise dans ma tête. Oh, j'ai le péché contre le Saint-Esprit. Non, ici, c'était un cœur dur, un cœur endurci, un cœur qui, après avoir examiné tout ce qui était important d'être examiné, a rejeté Jésus. C'est bien différent que quelqu'un qui a de la misère dans sa vie chrétienne ou dans sa relation avec le Seigneur. Vous savez, Jésus sait qu'on est encore dans une réalité humaine. Il le sait, ça. Et ce qu'il veut, c'est avoir un accès à notre cœur. Naturellement, il veut qu'on vienne auprès de lui. Je vais vous inviter à prier avec moi ce matin. On va terminer avec cette prière. Seigneur Jésus, toi tu me vois ce matin. Toi tu voyais ces pharisiens, ces scribes. Tu voyais leur cœur aussi. Tu voyais la différence entre leur cœur à eux et celui d'un Saul de Tarse, lequel tu t'es approché de lui. Et aussitôt qu'il t'a rencontré, Jésus, son cœur a changé. Et il s'est tourné vers toi. Il a arrêté de combattre qui tu étais. Parce que là, il a compris que tu étais le Messie, le Sauveur promis. Et tu as changé sa vie, Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce que tu me vois ce matin, moi, ce matin ici? Vois-tu mon cheminement spirituel où j'en suis rendu présentement? Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois les questions que j'ai, Seigneur, dans ma vie par rapport à ma relation avec toi. Seigneur, est-ce que mon cœur t'appartient? Est-ce que j'ai cédé ma vie entre tes mains? Est-ce que j'ai cru que tu étais le Fils de Dieu, mort sur la croix pour moi? Est-ce que je t'ai donné ma vie, Seigneur, vraiment? Seigneur, je te confesse que je n'ai pas toujours été aussi fidèle que probablement tu aurais aimé que je le sois envers toi. Mais Seigneur, ton amour envers moi n'est pas basé sur ma fidélité, mais il est basé sur ta fidélité. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux venir ce matin me rencontrer dans la réalité dans laquelle je vis? Seigneur, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui on franchit cette ligne de non-retour. Seigneur, moi, mon cœur t'appartient. Je veux être à toi, Jésus. Peux-tu venir me donner ce que mon cœur a besoin pour que je puisse vivre pleinement pour toi, Seigneur Jésus? C'est le désir profond de mon cœur ce matin. Je fais appel à toi, Jésus, sachant que c'est toi qui peux me donner ce que mon cœur a besoin pour que je puisse vivre pleinement pour toi, porter le fruit qui va te glorifier et que mon cœur va pouvoir t'aimer, parce que c'est le désir qu'il y a dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur Jésus d'être celui qui est fidèle. Merci d'être patient envers moi, Seigneur Jésus. Et merci de désirer autant me soutenir, m'accompagner et m'aider à vivre pour toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.